Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième édition des Échos de l'innovation. On a la parole pendant une heure pour une émission qui mêlera débat, science et des invités, mais pas cette fois, avec des rubriques qui tourneront autour d'un thème précis. Et chaque rubrique pourra faire rebondir sur des questions et des avis, et tout le monde pourra prendre la parole, le but étant de faire évoluer le débat sur toute l'émission. Donc le thème du jour parlera bioéthique. On va commencer avec une première rubrique, les actualités. Donc Honoré, je te laisse la parole.
Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle rubrique actualités scientifiques et technologies de cette semaine. Donc aujourd'hui, on va d'abord parler de la NASA. En effet, l'agence spatiale américaine a tout juste dévoilé les nouvelles combinaisons des astronautes qui marcheront sur la Lune. Donc, je ne sais pas si vous le savez, dans le cadre de la mission Artemis prévue en 2024, les futurs astronautes équipés de nouvelles combinaisons devraient évoluer plus librement sur la Lune. Présentées mardi dernier par la NASA, ces combinaisons déclinées en deux modèles, plus légères et plus ergonomiques et adaptées à l'environnement, seront unisexes et conviendront à toutes les tailles. Moins de rigidité pour des mouvements plus fluides. Les combinaisons que mettront les astronautes américains sont encore des prototypes qui n'ont pas été testés dans l'espace et dont la conception doit être finalisée. Le retour d'humains sur la Lune est officiellement prévu pour 2024 avec la mission Artemis 3, même si ce calendrier reste incertain en raison de retards et de problèmes de financement. Les combinaisons ne devraient pas être prêtes avant 2023. Les précédentes combinaisons pour marcher sur la Lune dataient des missions Apollo, qui, je le rappelle, datent des années 1969 à 1972. Ce sont de véritables mini-vaisseaux spatiaux fournissant de l'oxygène à l'astronaute, recyclant l'air, régulant la température interne et protégeant des radiations. Les ingénieurs de la NASA travaillent depuis des années à une version améliorée, en particulier pour l'élimination du dioxyde de carbone. Il y a en fait deux combinaisons, l'une pour marcher sur la Lune, blanche avec des bandes bleues et rouges, baptisée XEMU, et l'autre pour le trajet entre la Terre et la Lune, plus légère et de couleur orange, baptisée Orion Crew Survival Suit, dont la combinaison de survie pour l'équipage de la capsule Orion. On passe sans plus attendre au deuxième titre d'actualité, avec le blob, cet organisme unicellulaire capable d'apprendre sans cerveau. Ce n'est pas un animal, ni une plante, ni un champignon. Le blob, ou Physarum folicephalum de son nom scientifique, est un être rampant unicellulaire. Il est composé d'une unique cellule, contre 100 000 milliards dans le corps humain. Cette cellule vit dans les sous-bois depuis des centaines de millions d'années, mais depuis cette année, il sera possible de la voir dans un parc zoologique, celui de Paris, au bois de Vincennes, le premier du monde à accueillir cette espèce. Le public pourra faire sa connaissance au vivarium du parc. Bien que dépourvu de bouche, d'estomac ou de cerveau, ou même de système nerveux, le blob mange, se déplace et est même capable d'apprendre de ses expériences, comme l'ont démontré pour la première fois des biologistes de l'Université Toulouse 3 en 2016. Dans une autre étude publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society B, ces mêmes chercheurs ont déterminé que le blob est aussi capable de transmettre ce qu'il a appris en fusionnant, même temporairement, avec ses congénères. Ils ont alors effectué une série d'expériences parmi lesquelles les chercheurs Audrey Dussutour et David Fogel ont appris au blob à traverser un pont recouvert de substances répulsives mais inoffensives pour eux, comme par exemple le café, la quinine, le sel, afin d'atteindre leur nourriture. C'est lors d'une seconde expérience que les chercheurs ont pu vérifier que les blobs pouvaient transmettre leur apprentissage en fusionnant avec leurs congénères. En effet, ce dernier, composé de milliers de noyaux, a naturellement la faculté de se fragmenter en présence d'obstacles et de fusionner au contact d'un ou de plusieurs congénères. Si le déroulement de ces expériences vous intéresse, je vous encourage fortement à visiter le site du CNRS où vous trouverez bien plus de détails. On passe maintenant au troisième titre d'actualité qui concerne notre santé. La lumière bleue des écrans raccourcirait l'espérance de vie. S'exposer à la lumière bleue tous les jours pourrait réduire la longévité, selon une étude parue dans la revue Nature. Ces travaux, réalisés sur des mouches, montreraient que les écrans n'affectent pas seulement notre vue. Et si la lumière bleue réduisait l'espérance de vie, et ce même si elle n'est pas directement en face de nos yeux? C'est en tout cas ce qu'a montré une étude réalisée sur des mouches menée par l'Oregon State University of Science. Les chercheurs ont examiné des mouches exposées quotidiennement pendant 12 heures à la lumière bleue. Elles provenaient d'un écran LED, le même que sur nos écrans, similaire émettant une lumière bleue dont nous nous servons chaque jour. Un autre groupe de mouches était maintenu dans l'obscurité totale. Chez les mouches exposées à la lumière bleue, les scientifiques ont constaté des lésions au niveau de la rétine, la membrane qui tapisse le fond du globe oculaire et qui capte les signaux lumineux, mais aussi au niveau des neurones. Elles montraient aussi plus de difficultés à se déplacer sur les murs de leur enclos. Parmi les mouches exposées à la lumière bleue, certaines ne possédaient pas d'yeux. Pourtant, leur état est le même que les autres ayant été exposées aux écrans. Jadwiga Gibultovic, professeur de biologie intégrative à l'Oregon State University, College of Science, nous explique que c'est donc bien la lumière bleue des écrans qui s'avère dangereuse, et non la lumière classique comme celle du soleil dont nous avons au contraire besoin pour vivre. C'est elle par exemple qui permet au corps de produire de la vitamine D indispensable pour fixer le calcium sur les os. Maintenant, il reste à savoir comment les mouches sans yeux ont pu être affectées par la lumière bleue. La peau pourrait par exemple jouer un rôle dans ce processus. Une récente étude française publiée dans la revue Dermatological Science suggère que la peau pourrait vieillir plus vite sous l'effet des écrans. L'étude conclut que la lumière des écrans peut contribuer à un photovieillissement prématuré de la peau et conduit à l'épuisement des cellules et à un probable stress oxydatif. Les auteurs suggèrent fortement de ne plus négliger la protection de la peau contre la lumière visible. Suite à cet article quelque peu préventif sur les dangers de la lumière bleue de nos écrans, je vous propose de passer à un autre sujet concernant l'usine de Lubrizol à Rouen. En effet, on a récemment annoncé qu'une enquête de santé allait être menée auprès de la population. Comme vous le savez, il y a un mois, un incendie important a ravagé l'usine Lubrizol à Rouen. Il s'agissait d'une usine de produits chimiques classée Seveso seuil haut. Elle synthétisait et stockait des produits chimiques destinés à être utilisés comme additifs pour lubrifiants. Suite à cet incendie, l'État va mener une enquête de santé auprès de la population qui était sous la fumée de l'incendie. Elle concernera les 215 communes qui se sont retrouvées sous le panache de fumée de 22 km de long. Anne Laporte, la directrice des régions de l'agence Santé publique France, a expliqué lors d'un comité de transparence sur l'incendie à Rouen que l'objectif de l'enquête déclarée de l'enquête de santé déclarée de population générale, qui sur le terrain doit démarrer en mars, est de mesurer les nuisances qui ont été vécues par les personnes exposées, les symptômes ressentis, l'impact sur la qualité de vie, les relations sociales, familiales, professionnelles, et puis les conséquences psychosociales et la santé perçue. Concernant l'éventuelle enquête biologique, ce sont des prélèvements. Ça peut être un recueil d'urine ou de sang, mais il ne s'agira pas d'une enquête sur population générale, mais plutôt sur échantillonnage déterminé par les zones contaminées. Patrick Berg, le directeur régional de l'environnement, a affirmé que l'enquête environnementale vise principalement à détecter des polluants même à doses faibles et très faibles. À ce jour, les 150 prélèvements effectués sont satisfaisants. Quant à la durée de l'enquête environnementale, cette dernière qui concerne 215 communes doit être bouclée a priori dans les mois qui viennent, ont indiqué l'AFP à Madame Laporte et l'ARS. Charlotte Goujon, la maire PS de Petit-Quevilly, commune qui jouxte l'usine Lubrizol, a déploré des odeurs et symptômes persistants chez les habitants, tels que langue qui pique, nausée, gorge qui gratte et j'en passe. Le préfet a même affirmé qu'à la préfecture, il arrive encore, c'est plus rare et atténué, d'y avoir des odeurs. Ce dernier a pris un arrêté pour les faire cesser d'ici à la fin du mois. En tout cas, on attend avec impatience les résultats de cette enquête. C'est sur une dernière news de paléontologie que va se clore cette rubrique, avec la découverte d'une nouvelle espèce de tétrapode en Russie. Il y a environ 400 millions d'années, les tétrapodes, représentés aujourd'hui par les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères, ont commencé à se risquer hors des eaux. Pourquoi ? Quelles adaptations squelettiques ou physiologiques leur ont-ils permis de déambuler sur la terre ferme ? Les paléontologues commencent à en avoir une petite idée, mais les fossiles de tétrapodes sont rares ou mal conservés. La découverte présentée dans la revue Nature, dans le courant de la semaine dernière, est en ce sens exceptionnelle. Elle présente une nouvelle espèce de tétrapode et cette dernière est connue grâce à l'identification d'une centaine d'os fossilisés parfaitement bien conservés et provenant de plusieurs individus. Les os ont été protégés par un dépôt de calcaire formé dans un ancien lagon côtier et qui est aujourd'hui apparent sur les bords de la rivière Izma en Russie. La couche géologique est datée de 372 millions d'années et son contenu se compose de dizaines de crânes et de ceintures scapulaires en très bon état. Leur étude a conduit à des très précises reconstitutions en 3D de l'animal, qui devient le plus ancien tétrapode bien connu et sans doute le plus primitif, comme en témoignent certaines caractéristiques de son squelette qui sont apparentées aux poissons. Le tétrapode a été baptisé Parmastega aelidae. Son corps évoque la forme d'un crocodile, mais ses yeux sont perchés sur des appendices, comme chez Jar Jar Binks, le personnage de la saga Star Wars. Il avait un crâne et un museau assez allongés, l'ensemble mesure 27 cm chez les plus grosses spécimens, ainsi que des dents assez imposantes. Des récepteurs sensoriels semblables à ceux qu'utilisent les poissons pour détecter les vibrations de l'eau sont présents en nombre sur toute la partie basse de son crâne et de son museau, et sont bien plus rares au sommet de la tête et autour des yeux. Cela signifie probablement qu'il passait son temps à flotter juste sous la surface de l'eau en ne laissant émerger que ses deux yeux. Bien qu'on ne sache pas encore assez sur les habitudes de chasse de Parmastega, on a quand même pu recueillir un bon nombre d'informations essentielles à la compréhension du mode de vie de ces animaux préhistoriques. Dans tous les cas, il s'agit d'une découverte primordiale pour comprendre l'évolution des premiers animaux vertébrés qui se sont aventurés hors des eaux. C'est la fin de cette rubrique actualité. Je vous laisse avec Léo qui va vous présenter la rubrique suivante de cette semaine.
Bien, merci à toi Honoré et merci pour ces actualités toujours aussi intéressantes. On se quitte quelques minutes pour une petite page musicale. Et après cette courte page musicale, je donne la parole à Lyolia pour la prochaine rubrique qui s'intitule « La science sous les radars ».
Bonjour, aujourd'hui je vous présente un projet innovant qui est en cours de développement mais qui pose quelques questions éthiques. Il s'agit de ramener des espèces disparues à la vie. Par exemple, il y a une fleur qui a été disparue, appelée la Silène Sténophila, qui a été ramenée à la vie par des scientifiques russes. Pour ça, ils se sont servis de graines qui avaient été enterrées par un écureuil il y a 30 000 ans en Sibérie. Donc plus précisément, elles étaient enterrées dans le pergélisol. En fait, c'est la partie qui ne dégèle jamais, donc ça a permis de les conserver pendant très longtemps. Ça a empêché l'infiltration d'eau et donc elles étaient isolées de la surface. Et en fait, les tissus cellulaires, ils ont pu survivre, ce qui a permis de ressusciter la fleur. En fait, c'est pas vraiment ressusciter, c'est plutôt prélever l'ADN afin de cloner les cellules. Donc aujourd'hui, les scientifiques, ils ont pour projet de ramener un mammouth à la vie, donc c'est quand même assez différent d'une fleur. Donc en fait, ce ne serait pas un vrai mammouth comme on en trouvait à l'époque, parce que ramener une espèce à la vie, la seule solution, c'est de cloner l'espèce. Donc en fait, il faudrait créer une sorte d'hybride entre un éléphant et un mammouth, donc ce ne serait pas un vrai mammouth. Et les chercheurs cherchent à modifier une cellule d'éléphant en y incorporant des gènes de mammouth. Mais il y a plusieurs problèmes, parce que mettre un embryon modifié, ce serait assez risqué, parce que, par exemple, les éléphants, c'est une espèce qui est assez en danger, donc est-ce que ça vaut le coup de mettre une espèce en danger pour en ressusciter une qui a déjà disparu ? Et le mammouth, quand il serait ressuscité, entre guillemets, il serait seul et il s'adapterait peut-être pas à son environnement. Donc on n'est pas vraiment sûr que le projet aboutira un jour, et il soulève de nombreuses questions d'ordre éthique. Par exemple, pourquoi, comme je l'ai dit, pourquoi on voudrait ramener des espèces disparues à la vie alors qu'il y en a beaucoup qui sont en voie d'extinction ? Et si à long terme on pouvait ramener toutes les espèces à la vie, peut-être que les actions pour sensibiliser à la disparition, elles auraient plus vraiment de sens et les gens y feraient moins attention. Ou encore, est-ce que les animaux ressuscités ne deviendraient pas des bêtes de foire ? Est-ce qu'ils ne seraient pas enfermés, etc. ? Après, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Si vous avez une réaction par rapport à ça, je vous laisse la parole.
Je pense que vraiment ce que tu dis, l'effet un peu zoo, ça a déjà été fait en Allemagne. Il y a des gens qui clonent et gardent des gamètes ou des cellules d'animaux disparus et qui les font revivre comme ça et on peut aller les voir. Donc finalement, et partout ils meurent, mais on est content d'aller les voir dans un zoo à Munich le dimanche après avec ses enfants. Donc c'est un peu paradoxal et un peu une fausse solution. Voilà, pour ce que j'en pense.
Juste pour les enfermer, donc au final ça n'a pas trop d'intérêt, mais en même temps, est-ce que si on les ramène et qu'on les laisse dans la nature, est-ce qu'elles ne vont pas se faire tuer genre par des braconniers ou... Du coup, c'est...
Sûrement qu'elles seront plus du tout adaptées à notre environnement, surtout, donc elles risquent de juste mourir.
Il y a peut-être un risque de déstabilisation des milieux, quand on introduit des espèces qui n'ont pas forcément de prédateurs ou pas de proies. C'est dangereux, ça s'est déjà vu dans des milieux marins ou forestiers, et quel serait l'intérêt de ressusciter des espèces
Surtout ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on sait qu'il y a des espèces qui vont disparaître. Et du coup, maintenant, on commence à dire vite, 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 il faut garder les cellules. Comme ça, quand elles ne seront plus là, on pourra les recréer. Et du coup, ça...
Mais du coup, on ne pense pas du tout à protéger notre environnement alors qu'il est encore temps de le faire.
Après, est-ce qu'il n'y aurait pas des intérêts scientifiques derrière le fait de reproduire des espèces, historiques peut-être, pour retracer leur disparition ou des événements qui remontent à plusieurs milliers ou milliards d'années, j'en sais rien. Ouais, c'est une question qui oppose peut-être l'éthique avec le progrès scientifique.
Après, c'est sûr que ce sera un progrès scientifique, mais au niveau historique, est-ce que du coup, faudrait pas faire un choix dans les espèces, genre, est-ce qu'on ramène des espèces qui ont disparu depuis très longtemps ou celles qui ont disparu depuis pas longtemps ? Et après, est-ce que ça ne va pas faire une sélection des espèces, un peu un classement ?
Il y avait un petit chien hyper connu dans une série en Chine. Et comme il va bientôt mourir, ils ont décidé de le recloner. Et ça coûte des centaines de milliers d'euros. Et en fait, ils se sont aperçus que c'était un business assez lucratif. Et du coup, maintenant, il y a plusieurs entreprises en Corée, en Chine ou aux États-Unis où ils proposent, si le chien meurt, tu peux extraire une cellule, le renvoyer, pour 250 000 euros, il te le reclone le même. Donc c'est pas le même caractère, hein, parce qu'il faut pas confondre la génétique et la personnalité. Mais voilà, donc si jamais votre chien meurt, j'en pense, je monte ma start-up.
C'est vrai que par rapport à ce que tu dis, Pierre, j'ai vu que dans un futur proche, ils veulent aussi appliquer ça directement à des humains, en fait, pour des soldats qui mourraient sur le champ de bataille. Ils veulent qu'on puisse, après leur mort, cryogéniser leur spermatozoïde et qu'une femme puisse se faire implanter ses gamètes plus tard et qu'il y ait un enfant post-mortem en fait. Et ça a d'ailleurs déjà été fait.
Où ça ?
Aux États-Unis.
Forcément. Voilà.
Ok, donc merci pour toutes ces réactions et je pense qu'on va pouvoir passer à la prochaine rubrique qui s'intitule Les oubliés de la science et je laisse donc la parole à Lucille.
Bonjour. Dans cette rubrique, on vous présente à chaque émission une personne qui a été spoliée de ses découvertes ou qui n'a pas été reconnue à sa juste valeur. Le but est de mettre à l'honneur des personnes écartées de la science scientifique malgré leurs travaux impactants. Cette semaine, on parle de Rosalind Elsie Franklin, qui est une pionnière de la biologie moléculaire et de sa contribution déterminante à la découverte de la structure à double hélice de l'ADN. Ses travaux, menés dans les années 50, commencent seulement à être reconnus. Elle est née en 1920 dans une famille juive à Londres, autant dire que son enfance n'a pas été facile. Et elle obtient pourtant un doctorat à l'université de Cambridge en 1945, sur la porosité du charbon et son utilisation dans les masques à gaz. En 1947, elle se forme à Paris à la cristallographie au rayon X. C'est une technique d'analyse fondée sur la diffraction des rayons X par la matière. De retour à Londres en 1951, elle se sert de ses nouvelles connaissances pour étudier l'ADN et sa structure. Et elle étudie cela avec Maurice Wilkins, et M. Goldslin, c'est un doctorant, et la diffraction de l'ADN a été considérablement améliorée grâce à cette technique. Mais il y a des tensions qui s'installent entre Wilkins et Franklin, et c'est dans ce contexte que le doctorant et Franklin identifient la structure en double hélice de l'ADN. Seulement, à l'université de Cambridge, deux chercheurs, Watson et Crickes, s'appuient largement sur les découvertes effectuées par Rosalind Franklin pour construire un modèle moléculaire de l'ADN. Et alors, 1953 est une année charnière, puisque Franklin quitte l'université dans laquelle elle étudiait, tandis que Watson et Crickes publient leur modèle dans la célèbre revue Nature. Les travaux antérieurs de Rosalind Franklin et Maurice Wilkins ne seront publiés que plus tard, comme soutien au modèle de Crickes et Watson. Bref, Wilkins collabore avec Crickes et Watson, tandis que Franklin reste sceptique face à ce nouveau modèle moléculaire de l'ADN. Elle sera ainsi écartée de la découverte de la structure à double hélice de l'ADN. Et en 1958, elle décède suite à un cancer des ovaires, tandis que les trois autres chercheurs reçoivent un prix Nobel en 1962 pour la découverte de la structure à double hélice de l'ADN. En résumé, Rosalind est une femme pleine de ressources et une chercheuse talentueuse. Ses photographies de l'ADN par cristallographie des rayons X ont largement contribué à la découverte de la structure en double hélice de cette molécule. Ses recherches n'ont pourtant pas été récompensées par un prix Nobel, alors que les trois autres chercheurs qui ont eu le même sujet de recherche se sont vus récompensés par ce fameux prix. Pourquoi a-t-elle ainsi été spoliée ? Est-ce à cause des tensions avec Wilkins, parce qu'elle était juive ou parce que c'était une femme ? Nous ne le saurons probablement jamais. Mais elle mérite d'être mise à l'honneur et d'obtenir plus de visibilité et de reconnaissance pour cette connaissance maintenant devenue universelle et élémentaire.
Eh bien, merci à toi, Lucille. On va encore une fois se quitter rapidement pour une petite pause musicale. À tout de suite.
Oui, elle peut pas avoir post-mortem. For a while I wanna drive fast on top the 105 pass. These mountains with my friends singing songs and leave this old life behind. Waste no more time living out someone else's life. I'm just gonna take back what's mine. My heart's been longing for life. I wanna tiptoe across the open unknown where golden sun meets white snow and call this old van my home. I wanna kiss her in front of all these strangers. Maybe that's what love is, or maybe we're just dumb kids. I don't wanna waste no more time living.
gonna take back what's mine. My heart's been longing for life. Just wanna live like I'm supposed to. Just wanna dance. So go ahead like you were born to. Just even then.
I wanna stand by the California state line and watch the ocean's tide rise. Looking into your eyes.
I don't wanna waste no more time living out someone else's life. I'm just gonna take back what's mine. My heart's been longing for life. I don't wanna waste no more time living out someone else's life. Take back what's mine. My heart's been longing for life.
Et on se retrouve tout de suite. Et pendant la pause, on a eu quelques réactions par rapport à ce que Lucille nous a dit juste avant la musique. Je laisse Pierre réagir.
Du coup, par rapport à la chercheuse qui a fait la recherche sur la double hélice, en fait, comme elle a dû faire, de ce que j'ai appris en tout cas, comme elle a dû faire beaucoup de cristallographie aux rayons X, eh ben, elle a pris beaucoup, beaucoup de rayons X et c'est pas impossible que ce soit à l'origine de son cancer des ovaires. Donc c'est quand même assez horrible. Et en plus, ce que tu disais m'a fait penser que on a souvent cette vision de la science où il y a un super inventeur qui un jour a une illumination sous la douche et se dit tiens, la double hélice, c'est ça. Et je pense que c'est vraiment pas vrai. C'est à chaque fois, c'est toujours un collectif. Il y a une ou deux personnes qui décrochent un Nobel ou un prix, mais je pense qu'il y a aucun super humain qui existe. C'est toujours des gens qui construisent des choses ensemble. Et c'est peut-être dommage aussi de toujours valoriser et hiérarchiser la participation à ça.
Très bien. Et tout de suite, une petite surprise. Je crois qu'on a un nouvel invité. Il s'agit d'une bactérie.
Salut patron, je suis là, tu me sens pas? Là le petit truc dans ta main. Tu ne sens rien? Malgré les dizaines de coups de flagelle que je te mets. Je suis Bacillus elulis, une bactérie extrêmement rare, issue du microbiote d'un illustre humain mort il y a 25 ans, Jacques Ellul. En fait je suis issu du microbiote vaginal de sa mère. Pas la peine de faire cette tête là, hein. Les bactéries qui constituent ton microbiote viennent également du vagin de ta mère. Grâce à elle, tu digères les sushis, le poulet, mais pas la salade. Parce que tu ne digères pas la salade, patron. Pourquoi je t'appelle patron? Parce qu'on est dans la même équipe, toi et moi. Mes cousines bactéries représentent 60% des cellules de ton corps, que l'on a colonisées en quelques minutes après ta naissance. Tu es constitué de plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. Donc d'un point de vue strictement comptable, nous autres, bactéries, devrions avoir notre mot à dire sur chaque décision que tu prends. Ma revendication, patron, c'est une cellule, un vote. C'est simple, non? 60% de bactéries dans ton petit corps chétif, donc 60% de votes pour nous. Crois-moi, tu aurais beaucoup à gagner à nous écouter, nous, tes vieilles cousines. Nous sommes les premiers êtres vivants de la planète. Nous avons rendu l'air respirable, nous t'avons permis de fabriquer ton énergie, tout comme nous l'avons permis aux plantes. Les mitochondries, tu connais, non? C'est nous qui t'avons donné ça, un petit transfert technologique par pure sympathie. Nous savons survivre dans les sols, sur tous les types de terrains, de la montagne à la profondeur des océans. Nous avons colonisé les failles océaniques, les sources d'eau chaude et les intestins, y compris le tien. Nous pouvons survivre dans l'espace, résister à la pression, à la chaleur et au manque d'eau. C'est grâce à nous que tu peux faire ta respiration cellulaire. Mes cousines et moi estimons que cela mérite un minimum de respect et surtout d'humilité de ta part, patron. Mais nous avons l'impression que depuis quelque temps, patron, tu te prends plus uniquement pour le patron, mais aussi un peu pour Dieu. Nous avons laissé faire quand tu as commencé à brûler tout le charbon que tu trouvais. Nous t'avons laissé accéder au confort, au chauffage, à l'eau courante, à l'hygiène, accéder à une vie plus facile, même si ce fut au prix de bien des dégradations sur la planète et sur tes congénères. Nous nous sommes dit qu'après tout ça, tes problèmes seraient résolus et que tu saurais t'arrêter. Mais en fait, nous avons été bien naïves. Aucun de tes problèmes n'est résolu et tu continues. Le train, le tramway et la radio ne t'ont pas suffi, il t'a fallu le TGV, la voiture et la télé. Ça ne t'a toujours pas suffi. Tu as eu les premiers ordinateurs répondant à tous les besoins de calcul que tu as toujours eus. Tu aurais dû être satisfait. Le problème était résolu. Mais tu as continué avec le numérique, les ordinateurs portables, la 3G, la 4G et bientôt la 5G. Et alors nous avons compris. Tu ne cherches pas à résoudre tes problèmes, petit homme. Tu ne cherches qu'à te moderniser. Et tu cherches le progrès technique pour lui-même à n'importe quel prix. Tu veux la 5G, des objets connectés, des cellules qui se régénèrent et des intelligences artificielles comme tu te les représentes dans tes fictions. Tu cours après tes propres fantasmes, mon petit gars. Après ta vision étroite d'un progrès comme étant uniquement un progrès technologique. Avec chaque technologie que tu crées, apparaissent de nouveaux problèmes. Mais tu ne sais pas t'arrêter. Le monde dans lequel tu vis va mal, mais il n'est pas trop tard. Tu as les moyens de tout changer. Mais au lieu de ça, tu penses Hyperloop et colonisation de Mars. Tu cours, petit homme. Tu cours après la modernité, une chimère. Et tu pleures. Tu pleures comme un petit enfant frustré et immature qui n'en a jamais assez. Avec ta technologie et ta science, tu ouvres des portes qu'il faudrait laisser parfois fermées. Tu as été scandalisé en juin dernier lorsque deux jumelles humaines ont été génétiquement modifiées pour résister au virus du sida. Tu es scandalisé, mais tu ouvres quand même la porte. Celle-ci, tu l'as ouverte il y a 25 ans en commençant à transformer génétiquement des êtres comme nous, les bactéries. Dans ta course à la modernité, quoi de plus logique que, après avoir transformé génétiquement des bactéries, tu finisses par transformer génétiquement des hommes. Tu as initié le processus et tu ne sais plus t'arrêter. Tu penses que tu peux tout inventer et tout découvrir, que le seul risque serait que le mauvais que quelqu'un utilise mal ce que tu inventes. Mais c'est faux. Aucune recherche, aucune technologie n'est neutre. Ce sont des portes, petit homme, des portes que tu ouvres et qui donnent accès à un monde imprévisible de conséquences négatives et positives. Les deux vont ensemble. La recherche sur l'édition génomique et la dérive avec les jumelles génétiquement modifiées se trouvaient derrière la même porte. Et toi, tu l'as ouverte. Tu es le seul qui, face à une porte promettant un progrès très relatif, mais des risques énormes et inconnus, et qui ouvre quand même la porte. Face à plusieurs solutions, tu choisiras toujours la technologie, au détriment du bon sens. Face à la pollution issue de la production de viande que tu consommes en bien trop grande quantité, tu préfères cultiver artificiellement les cellules de gras et de muscles plutôt que d'en manger moins. Tu n'as aucune idée des conséquences qu'aura cette technologie. Aucune idée. Dans 15 ans, tu prendras conscience de ce que tes économistes appellent des externalités, c'est-à-dire des dégâts graves et imprévisibles qu'auront subi certaines populations, dont peut-être tes enfants. Le réchauffement climatique, par exemple, la pollution de l'eau aux métaux lourds, les cancers, sont autant d'externalités des solutions technologiques des générations qui t'ont précédé. Ta viande artificielle et l'édition génomique, pour prévenir les maladies, auront bien leurs externalités aussi. Tu ne les connais pas aujourd'hui, petit homme. Peut-être est-ce de nouveaux cancers, des dégénérescences, des maladies respiratoires. Alors est-ce que tu prendras le risque ? Laisseras-tu à tes enfants une avalanche d'externalités et de maladies pour continuer ta course à la modernité ? Hypothèqueras-tu ton avenir et celui des générations futures pour manger de la viande en masse jusqu'à l'éternité ? Tu parles beaucoup de bioéthique, petit homme. Il est facile de faire preuve d'éthique face au scandaleux. Mais n'oublie pas que le scandaleux et l'horrible, voire le monstrueux, marche main dans la main avec les bénéfices d'une recherche ou d'une innovation. La technique qui a servi à transformer génétiquement les jumelles chinoises pour les protéger du HIV, CRISPR-Cas9, est utilisée massivement dans les laboratoires de médecine. Elle existe depuis 6 ans et elle a déjà été utilisée 9350 fois dans des travaux scientifiques ayant donné lieu à des publications. Ces externalités n'en sont qu'au début. Elles seront nombreuses. Il y a des portes qu'il ne faut pas ouvrir, petit homme. L'éthique, ce n'est pas pleurnicher a posteriori, ni vaguement cautionner la technologie en se disant qu'on l'utilisera dans les règles. Les règles, on ne les connaît pas. Les conséquences sont imprévisibles. Le débat éthique commence en se disant, face à ce qu'on risque, est-ce qu'il ne serait pas préférable de dire non ? Et si, petit citoyen, tu souhaites dire non, dire qu'il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers, qu'il faut laisser la porte fermée et que personne n'accepte ton point de vue, que tu es rejeté, alors c'est qu'il n'y a pas de débat. Tu es victime d'une pseudo-éthique qui ne sert qu'à cautionner l'engouement général pour une technologie. Le débat éthique, citoyen, c'est savoir écouter le non. C'est envisager de laisser des portes fermées.
Eh bien, merci à toi, Bactérie, même si je crois qu'on va redonner la parole aux humains maintenant, avec tout de suite une petite pause musicale.
smell the daisies. She drives me crazy. She drives me crazy. Gonna take her for a ride on a big jet plane.
On se retrouve après cette pause musicale. On a une rubrique qui tient à réagir par rapport à ce que la bactérie nous a dit. Plus précisément, elle nous a parlé du cas de deux jumelles en Chine dont le génome a été modifié pour les rendre résistantes au virus du VIH. Je crois que Lucille a quelques précisions à nous apporter par rapport à ça.
Alors oui. Donc il faut savoir qu'en 2018, un chercheur chinois a annoncé avoir modifié génétiquement deux jumelles pour les protéger de l'infection par le VIH, le virus qui cause le sida, sachant que leur père était séropositif. Pour ce faire, il a utilisé la technologie CRISPR-Cas9, dit des ciseaux génétiques. Cet outil a découpé l'ADN, peut traiter certaines maladies, mais aussi transformer irréversiblement des espèces, de quoi susciter autant d'espoir que de crainte. CRISPR-Cas9, c'est un brin d'ARN qui vient se fixer sur un gène cible de l'ADN couplé à une enzyme qui coupe l'ADN. Le but est ensuite d'inactiver un gène, de le remplacer ou de modifier son expression. Il faut savoir que le chercheur chinois qui a fait cette expérience a annoncé cette nouvelle avancée via une vidéo YouTube. Que pensez-vous de cette annonce contraire aux règles de la publication scientifique ? Peut-être déjà un peu parler des règles de la publication scientifique.
Classiquement, si je suis un chercheur X et que je veux produire un travail de recherche, donc j'ai fait une étude, J'ai des résultats, je vais la soumettre à une revue, donc Nature, Science, il y en a plusieurs. Et là, il y a un comité de lecture qui va lire mon article. Donc soit ils vont me le renvoyer en disant « Non, ça ne va pas du tout, on ne veut pas de vous ». Soit ils vont vous dire « D'accord, c'est bien, on l'envoie à des relecteurs ». Et dans ce cas-là, ils l'envoient à d'autres chercheurs du même domaine qui vont avoir le droit de dire « Oui ou non, je veux bien relire cet article ». Et s'ils disent « Oui », ils vont le relire très attentivement. En général, ils ont le droit à un mois pour le faire et émettre des corrections ou des objections qui vont être renvoyées à l'éditeur. Et l'éditeur va me dire à moi, auteur, écoute, mon gars, je publie ton article si tu acceptes de prendre en compte ces relectures. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle la relecture par les pairs, c'est-à-dire que je ne peux pas publier une étude juste comme ça. Et c'est long, il faut à peu près un an et demi entre l'écriture de l'article et le moment où il arrive dans la revue.
Et c'est pour ça que cette annonce via une vidéo YouTube est aussi étonnante. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ?
Pour moi, ça fait un peu comme si le chercheur, il avait voulu faire ça dans le dos de la communauté scientifique. Par exemple, il savait que c'était pas bien et qu'il avait pas forcément le droit de le faire. Et du coup, il s'est dit, bon, si je fais une vidéo YouTube, ça passe, il y a personne qui va me relire, etc. Du coup, ça montre que même lui, il était pas trop sûr de sa découverte, je pense.
Et puis, ça fait le buzz aussi. C'est un moyen de faire exploser la nouvelle et de la rendre publique directement.
Ouais, le buzz, c'est parfois utilisé. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé du blob. Le blob, c'est pareil. Au début, c'était un truc qui était hyper pénible scientifiquement, le sujet le plus rébarbatif au monde. Et en fait, maintenant, c'est hyper connu parce que la fille qui l'utilisait, qui l'a étudié à l'INRA, a réussi à l'appeler le blob. Alors normalement, il a un nom hyper pénible, un peu hyper ennuyant et tout. Et du coup, voilà. Donc ce gars-là a peut-être fait une vidéo YouTube juste pour provoquer... faire le mauvais garçon et faire scandale, ce qui a plutôt bien marché.
Est-ce que c'est pas un bon pas vers la vulgarisation scientifique et l'accessibilité des nouvelles études et des expériences au public ?
Alors, pensez-vous que la faim, ici protégée, deux fillettes du VIH, justifie les moyens ? Modifier leur ADN sans demander l'accord de la communauté scientifique et sans se questionner sur les retombées d'une telle expérience.
Ça, c'est toujours la méga question. Souvent, quand on crée une technologie, l'argument principal pour la cautionner, c'est de dire écoutez, votre grand-mère est malade, est-ce que vous seriez prêt à dire on ne l'utilise pas, quoi ? On n'utilise pas la chimiothérapie, on n'utilise pas ce genre de choses. Pour moi, le problème de ça, c'est qu'on peut justifier à peu près tout. Parce que quand une grand-mère est malade, on serait prêt à accepter n'importe quoi, même pour lui rajouter 3 semaines de vie, même si elle veut mourir. Bon, pour le sida, c'est différent. Mais pour moi, c'est une question qui est hyper dure à traiter, j'arrive pas à avoir de point de vue dessus. Est-ce qu'on peut tout sacrifier comme ça, même l'éthique, même des barrières qu'on s'était fixées, on touche pas au génome humain, là on y touche. Est-ce que ça vaut le coup d'aller jusque-là, sachant qu'on aura forcément des dérives et ce genre de choses ?
Surtout que cette technologie, rappelons-le, pourrait tomber dans les mains d'un nouveau Hitler. Donc, ça peut être vraiment horrible.
Parce que c'est une technologie qui reconnaît un site particulier sur l'ADN. Donc, typiquement, on pourrait cibler une ethnie particulière ou des animaux particuliers, et on pourrait attaquer comme ça juste en reconnaissant leur génome. Donc ça a une portée et que ça pourrait être dramatique. Je crois que c'est la CIA qui l'a classifié comme une arme de destruction massive.
Enfin, je pense que pour des maladies, au départ, c'est une bonne idée, ça part d'une bonne intention, mais comme tu l'as dit, après, ça peut aller vers des dérives. Et du coup, est-ce qu'après, il ne faudrait pas contrôler ces nouveaux moyens de modifier l'ADN, etc. Et du coup, ça pose encore beaucoup de questions. Jusqu'où il faut fixer les règles et qui les fixe, etc.
C'est sûr, à qui on donne accès. C'est toujours une question super compliquée et c'est ça qui forme l'éthique.
Pour ça, j'ai bien aimé ce que me disait la bactérie. De dire que forcément, en fait, si on accepte l'un, si on accepte de soigner les grands-parents, il va falloir accepter le reste parce qu'on aura toujours l'un avec l'autre. Et du coup, peut-être que la solution, normalement, c'est juste de... comme elle nous disait à la fin, de ne pas ouvrir la porte.
C'est sûr. Et alors, quelles sont vos opinions sur cette technologie de CRISPR-Cas9 et quelles en sont les limites selon vous ?
Pas de réaction de la part de l'assistance.
je crois qu'il y a quand même quelques dangers. Et le problème, c'est qu'il y a sans doute beaucoup de dangers qu'on ne connaît pas et que c'est jamais une bonne chose d'aller traficoter dans ce qui est quand même l'essence de la vie. L'ADN, c'est quand même le plan de... Enfin, c'est l'essence génétique de l'individu et aller toucher à ça, c'est se prendre un peu pour Dieu et ça me semble dangereux. D'autant plus que ça commence à être un peu prouvé qu'il y a des possibilités d'éditer le mauvais bout du génome ou enlever un gène important ou ce genre de choses. Encore une fois, jouer aux apprentis sorciers, c'est pas toujours...
Par exemple, si on se replaçait dans un contexte antérieur et qu'on parlait de la même... On replaçait le cas avec des organes. Il y a une époque où toucher aux organes humains, c'était tabou, notamment en raison de questions religieuses ou quoi. Et si à l'époque, on s'était dit la même chose que la manipulation d'organes humains, c'est sacré, qu'on ne mutile pas un corps humain, est-ce qu'en appliquant le même raisonnement à chaque fois, on ne pourrait pas juste empêcher le progrès ou des techniques de médecine modernes?
Est-ce que c'est vraiment du progrès?
C'est à définir selon le contexte. Mais si, par exemple, on reprend le cas des organes, très précisément, c'est exactement les mêmes choses qui étaient utilisées par le passé pour empêcher la manipulation des organes humains en raison d'une éthique qu'on s'était fixée. C'est quelque chose qui a évolué et donc évidemment qu'il y aura des dérives. Enfin, il y a des dérives aujourd'hui avec les organes. Pourtant, est-ce qu'on reviendrait sur ce progrès aujourd'hui pour des questions éthiques ? Si on considère ça comme un progrès. Je ne sais pas.
Je pense qu'un bon moyen de se questionner sur ce qu'est le progrès ou pas, c'est dans quel monde est-ce qu'on veut vivre. Et en tout cas, personnellement, je suis un monde dans lequel on comprend mieux le corps humain. Je pense que c'est intéressant, mais un monde dans lequel on peut choisir d'effacer un handicap d'un génome ou... à la fin, c'est pas forcément amené à des dérives, qu'on le veuille ou non. Je suis pas sûr de vouloir vivre dans ce monde-là et je suis pas sûr de le souhaiter pour les générations futures. Surtout que si on accepte ça aujourd'hui et qu'on suit cette logique de il faut pas ralentir le progrès et on risque d'arriver à des choses de plus en plus graves. Et voilà.
Au final, on modifie quand même l'identité d'une personne et sans lui demander son accord, parce que les deux jumelles, elles ont rien demandé en fait. Mais d'un autre côté, c'est un vrai progrès, je pense, parce que c'est quand même soigner des milliers de personnes qui sont malades et qui voudraient être soignées. Après, voilà, c'est toujours une question de limites qu'on se fixe et de barrières qu'on ne doit pas dépasser.
Et est-ce qu'on aurait les moyens techniques, matériels ou je ne sais pas, de vraiment empêcher ce genre de manipulation? Si la Chine prend le chemin d'une éthique, on va dire, nationale qui ne correspond pas à l'éthique internationale, ou n'importe quel pays, ça pourrait être l'Inde, la Russie, les États-Unis, enfin des grandes puissances économiques, est-ce qu'on aurait réellement les moyens de les empêcher de faire ce genre de choses?
Ben non. C'est bien ça tout le problème, c'est que... Et enfin, toute la question, c'est que en fait, au final, on n'a pas de moyens de pression réellement sur l'indépendance des pays et des nations. Et on n'a pas de gouvernance mondiale à proprement parler sur ces sujets-là. Il me semble pas, en tout cas.
En tout cas, aucun moyen... à moins d'en arriver à des combats militaires, mais aucun moyen. On peut émettre des orientations, je pense, au niveau de la communauté internationale, mais il n'y a pas vraiment de moyens
de pression
ouais. Surtout quand il s'agit des pays comme la Chine, qui économiquement sont relativement capables d'autonomie.
Voilà. Après, peut-être une solution, ce serait de créer une sorte de convention. Parce que par exemple, déjà après la Première Guerre mondiale, avec les combats prenaient une ampleur tellement désastreuse qu'on a créé la Convention de Genève, ou alors c'était avant la Première Guerre mondiale, juste avant la guerre de 1870. Et peut-être qu'avec l'arrivée de cette nouvelle technologie, ce serait une solution pour essayer de réguler tout ça, essayer de réguler ces scientifiques.
Il y a une charte qui a été signée par tous les pays qui a interdit de toucher à l'embryon humain, je ne sais plus ce que c'est exactement, mais elle a été signée par tout le monde, sauf les États-Unis et la Chine.
Étonnant.
Après, il y a des conventions qui vont être efficaces. Je pense au désarmement nucléaire, qui a relativement fonctionné. En tout cas, si on compare à quelques années antérieures, on peut dire qu'il y a eu des progrès. Après, ouais, dire que des conventions, c'est absolument utile, enfin, ou efficace, on peut peut-être en douter.
Ok. Merci pour toutes ces réactions très intéressantes. Je pense qu'on va passer à la prochaine rubrique. Donc, on passe à la viande artificielle que Lyola va nous présenter.
Donc, la viande in vitro, en fait, c'est de la viande artificielle qui est cultivée en laboratoire. En fait, c'est pas de la vraie viande, c'est plutôt un amas de cellules musculaires qui se multiplient dans des boîtes de pétri. Mais pour ça, il y a besoin d'un milieu de culture particulier, donc, c'est-à-dire des hormones, du sérum, des antibiotiques, etc. Donc voilà. Et l'intérêt, du coup, ce serait de libérer des terres et de ne plus tuer d'animaux. Et par contre, ça aurait quand même un impact social, économique, culturel, etc. Et donc, la question, c'est est-ce que vous êtes prêts à abandonner la viande, entre guillemets, la vraie viande, pour passer à de la viande artificielle ou pas? Sachant que, par exemple, en 2013, il y a le premier hamburger synthétique qui a été fabriqué, qui a coûté 250 000 euros et qui a quand même dû être assaisonné. Oui, c'est assez cher. Assaisonné pour avoir un goût de viande, donc avec de la chapelure, du jus de betterave, de la poudre d'œuf, etc. Donc la technologie, elle n'est pas encore forcément au point, mais je veux dire, imaginons que ce soit au point, est-ce que vous seriez prêt à manger de la viande artificielle?
Moi, oui, complètement. Je trouve que c'est une vraie solution potentielle si jamais la technologie est mise au point complètement pour garder un goût qui soit correct et tout ça. Je pense que c'est une réponse qui est possible au fait de nourrir l'humanité. Parce qu'on va avoir des problèmes, de toute façon, pour nourrir l'humanité. On a une des solutions, c'est d'arrêter de manger de la viande. Et peut-être que c'est la plus simple. Mais une alternative, ça serait peut-être de manger de la viande artificielle, en effet.
Moi, je pense que, vu ce que ça coûte, ce ne sera pas trop envisageable, je pense. Enfin, en tout cas, pour maintenant. Donc, peut-être que ça peut se développer dans les années à venir. Mais peut-être un truc qui pourrait marcher, parce que c'est très riche en protéines et ça coûte vraiment rien à produire, c'est les insectes en fait. Donc peut-être que là il y a quelque chose à explorer, parce que la viande c'est une super bonne idée, mais encore une fois c'est très cher et je sais pas si on arrive à réduire ses coûts, si justement l'objectif c'est de la produire en très grosse quantité.
Donc, ouais. Ouais, après d'un point de vue environnemental, c'est vrai que ce serait pas forcément hyper intéressant par rapport à la viande d'aujourd'hui. Genre, peut-être que ça consommerait même plus parce qu'il faudrait faire ça dans des usines, donc il y aurait une grande consommation d'eau, utilisation de beaucoup d'énergie et aussi la pollution des eaux parce que les molécules de synthèse elles vont faire des déchets. Et donc, est-ce qu'il y aurait vraiment, enfin, il y aurait plutôt un intérêt du point de vue qu'il y aurait moins d'animaux qui seraient tués, mais après, du point de vue environnemental, parce que c'est quand même un débat assez actuel, c'est vrai qu'il n'y aura pas forcément d'avantage. Donc ça pourrait être une alternative, mais pour l'instant, en développement.
Moi, j'ai aucun doute sur le fait que techniquement, c'est possible. Bon, là, ça coûte 250 000 euros, on en rigole, parce que c'est le début, mais un jour, ça coûtera aussi cher qu'un bon steak surgelé au Monoprix. Mais la question que je me pose, c'est que, est-ce qu'on veut vivre dans ce... Enfin, pour moi, ce serait un peu une sorte d'échec social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculture peut nourrir largement la terre entière. Effectivement, il y a le problème de la viande. On doit utiliser trop de calories qu'on utilise pour nourrir des bœufs, etc. Et pour produire de la viande pour les occidentaux. Et du coup, c'est des calories qui manquent dans les pays émergents ou les pays pauvres. Mais je pense que, pour moi, il vaut mieux affronter le problème qui est on ne peut plus manger 12 steaks par semaine parce que ça ne marche plus. Et on peut manger, comme le font tous les étudiants assez naturellement, juste parce qu'ils n'ont pas l'argent, un steak par semaine, voire moins. Personnellement, avec mes collègues, c'est exactement ce qu'on fait. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens.
C'est le cas de tout le monde, je pense. Ouais.
Ouais. Et voilà, plutôt que d'essayer de trouver une échappatoire technologique qui est finalement juste un marché qui me semble très juteux et pas forcément une bonne solution, sachant que comme ce que nous disait la bactérie, il y a sans doute des conséquences qu'on ne peut pas prévoir et qu'on risque de regretter après, a posteriori. Voilà.
C'est aussi que... Alors ce genre de progrès, enfin, on le justifie soit par une raison écologique, auquel cas, là, comme on l'a vu avec ce que nous a dit Lyolia, c'est quand même contestable. Ou alors, on le justifie d'un point de vue éthique au vu du bien-être animal. Et dans ce cas-là, c'est pareil, je trouve ça un peu contestable, puisque toute personne végane ou végétalienne a déjà fait en sorte d'arrêter une consommation de viande. Et on n'a pas besoin, enfin, je parle en connaissance de cause, de choses... copiant point pour point la viande. On n'en a pas besoin du point de vue des propriétés alimentaires pour le moment. On n'en a pas non plus besoin pour des questions de goût ou de papilles. Enfin, on s'en passe par bien des manières. Et du coup, alors peut-être qu'à usage très minime, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais en tout cas, à l'échelle de la planète, pour l'instant, je n'en vois pas l'intérêt.
À ce moment-là, le but ne serait pas pour les personnes qui sont déjà véganes, en fait, mais pour les personnes qui ne le sont pas, ce serait une espèce de transition.
Mais du coup, est-ce qu'on ne contourne pas le fait que le vrai problème, c'est que la population humaine, de manière générale, refuse de de se réguler. On parle de régulation dans tous les cas. Quand on parle de viande, si on abandonne le côté éthique d'abattre des animaux, on parle de la question écologique. Et dans ce cas-là, on pourrait vivre dans un monde écologique en réduisant drastiquement les consommations de viande. Mais du coup, on ne fait que contourner le problème qui est de forcer les gens à accepter qu'on ne peut pas vivre sans penser aux conséquences.
Mais je pense que c'est ça. De toute façon, pour le moment, c'est une façon de contourner le problème parce que les gens ne sont pas forcément prêts à stopper complètement. Et... voilà.
Enfin, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis pour contourner le problème parce que, enfin, je veux dire, si les gens se mettent à manger de la viande artificielle en se disant oui, c'est mieux pour les animaux, ça veut dire qu'ils sont conscients du problème mais qu'ils vont quand même continuer à manger de la vraie viande. Donc, au final, comme tu dis, c'est vraiment contourner le problème. Après, ça pourrait être une sorte de transition entre du passage à la viande artificielle et plus de viande. Mais après, c'est vrai qu'à l'échelle de la planète, c'est pas forcément possible.
Rien que dans le terme steak de tofu, par exemple, il y a une espèce de transition.
Alors,
de
le tofu, c'est extrêmement bon, mais encore une fois, on n'a jamais eu besoin. D'abord, ce n'est pas une invention végane, le tofu. C'est consommé dans des pays qui sont tout sauf végane.
J'ai juste sur le terme steak.
Ouais, je suis d'accord, mais c'est vrai que les véganes, en l'occurrence, n'ont pas besoin. Et puis après, on n'est pas obligé d'accepter tout ce que le marché végane crée aussi. Il y a des produits qui sont extrêmement polluants, qui sont créés en compensation de la viande.
Et puis les produits en compensation de la viande, ils ne sont pas forcément bons pour la santé. Après, la viande artificielle, c'est plein d'hormones et de sérums rajoutés dedans. Bah, je pense que la viande, la viande végane, si on peut dire ça, c'est pareil.
Donc je pense qu'on va maintenant passer à la dernière rubrique. Jinan, est-ce que tu peux nous présenter ta rubrique?
Donc je vais... Alors en réponse à ce qu'on a fait la dernière fois, cette fois-ci je ne vais pas remettre le bonnet d'âne, mais je vais remettre un prix. Et c'est le prix de la transplantation la plus rapide. Donc ce prix, on va retourner en Chine, puisque c'est la Chine qui a des temps d'attente pour les prélèvements extrêmement courts. Et donc on va s'intéresser à pourquoi. Donc la Chine, c'est le deuxième pays en nombre de greffes après les États-Unis. Un grand nombre d'hôpitaux en Chine affichent 1 à 2 semaines pour obtenir un rein ou un foie, en comparaison à 32 mois pour le Canada. C'est quand même un très bon élève. Comment font-ils? On connaît l'importance de la patrie en Chine, le sens du service et le sens de la patrie. On pourrait se dire que les effectifs de la population chinoise permettraient d'amorcer et d'amortir le nombre de demandes en greffe par des dons. Sauf que cette hypothèse ne tient pas puisque la société chinoise, par tradition, est très peu encline à transplanter des organes ou à faire un don d'organes, puisque selon des pensées qui sont encore une fois ancrées dans l'histoire de la Chine, le corps humain ne doit pas être mutilé avant d'être enterré. Donc cette hypothèse ne tient pas. Ensuite, on pourrait se dire que la Chine est obligée de faire appel à des organes étrangers. Encore une fois, on se rend bien compte que ce n'est pas possible. La population chinoise est bien trop importante. Aucun pays n'aurait la quantité nécessaire d'organes pour des échanges commerciaux. D'autant plus que, on estime qu'en Chine, il y a à peu près 10 000 dons par an contre une demande qui serait évaluée à un peu plus de 300 000 organes. Donc, c'est objectivement pas tenable. Qui serait en mesure de fournir à la Chine le nombre d'organes nécessaires aux greffes pour la population? C'est simple. En fait, les donneurs qui sont rares ne permettent pas d'amortir ce chiffre. En revanche, ce qui n'est pas rare en Chine, c'est les prisonniers politiques. Et donc les prisons, elles, qui sont plutôt bien peuplées, notamment de prisonniers d'opinion, donc des opposants au régime politique chinois, des opposants religieux, sont une source tout à fait tenable d'organes vivants. Le principe, c'est que les prisonniers enfermés en Chine, ceux notamment condamnés à mort, se voient prélever de leurs organes à leur mort sans forcément nécessiter leur consentement. De toute manière, un mort n'a pas besoin de ses organes, donc aucun problème avec cette pratique. Sauf que le problème, c'est qu'encore une fois, en regardant les chiffres, on se rend compte que c'est tout à fait impossible et intenable pour le pays de se fournir uniquement des organes de ses prisonniers, puisque les condamnés à mort représentent un chiffre assez infime en comparaison au nombre de demandes d'organes. Et donc, une autre solution qui a été dénoncée de ça quelques années, en fait, ça fait plus d'une décennie que ce problème est connu de la société internationale, C'est le prélèvement d'organes sur des prisonniers non condamnés à mort, donc des prisonniers vivants qui se voient amputés de leurs organes. On parle de plusieurs centaines de milliers de personnes, et notamment des prisonniers, des pratiquants du Falun Gong qui a été il y a une décennie, pareil. Alors un peu plus que ça, en fait, ça remonte à 20 ans. Mais cette pratique, cette adhésion à un espèce de mouvement philosophique et religieux a été interdit par la République de Chine et en raison notamment du montée de l'effectif de ces pratiquants qui sont estimés à plus de 70 millions. Et donc du coup, peu à peu, les pratiquants du Falun Gong ont été enfermés dans les prisons chinoises, arrêtés et systématiquement des tests sanguins et des tests de compatibilité d'organes étaient effectués sur les prisonniers, ce qui a poussé pas mal de questions à l'international. Alors, des évadés de ce mouvement ont également témoigné. Un certain nombre d'enquêtes ont été menées par des docteurs et des diplomates étrangers. Et donc, aujourd'hui, on en a la quasi-certitude, en fait, c'est que des prélèvements d'organes sans consentement ont lieu en Chine, dans les prisons politiques. Ces organes, ils ne servent pas qu'aux Chinois, en fait, parce que le tourisme de transplantation existe, donc des riches et des personnes ayant les moyens pouvant monétiser l'acquisition d'un organe n'ont qu'à se rendre en quelques clics sur Internet et commander leur organe qui sera disponible en quelques semaines sur les sites des hôpitaux chinois. Donc, malgré l'interdiction en 2015 de ces prélèvements, on se rend compte que le problème n'est pas solvable. En interdisant les prélèvements sur les prisonniers, la Chine n'aurait pas pu continuer à s'approvisionner en organes. Et donc, ça a amené, il y a quelques mois de cela, donc en mars dernier, le Parlement britannique a ouvrir donc un débat nommé le prélèvement forcé d'organes sur sujets vivants en Chine, et donc à débattre pour faire en sorte de l'interdire comme l'Italie, l'Espagne, Israël ou d'autres pays l'ont fait, tout tourisme relatif aux transplantations en provenance de la Chine. Voilà.
Bien, merci beaucoup à toi, Jinan. Et sur ce, cette chronique clôt l'émission de cette semaine. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis pendant cette heure. Et on se retrouve dans deux semaines. Bon week-end à vous. How could I be the last to know when they told me where the fool had gone? Oh, I was not the youngest one up there on the hills there climbing on. You went up with an open heart when they found you it was all but cold. Those hands they seemed so long. Be the last to know.
when they told me where the fool had